Chapitre 10. Le Monsieur Indien. Ces expéditions d'Ermengarde et de Loti à la mansarde étaient très périlleuses. Elles ne savaient jamais exactement si elles y trouveraient Sarah, et elles risquaient d'être surprises par Miss Amelia faisant une tournée d'inspection dans les chambres après l'heure du coucher des élèves. Leur visite était donc rare, et Sarah vivait une vie bien solitaire, plus solitaire encore quand elle était en bas que lorsqu'elle s'était réfugiée dans sa mansarde. Elle n'avait personne à qui parler, et quand on l'envoyait faire des commissions au dehors et qu'elle marchait dans les rues, pauvre petite silhouette d'enfant abandonnée, portant un panier ou un paquet et trempée quand il pleuvait, la solitude lui pesait encore bien davantage, au milieu de la foule qu'elle coudoyait. Au temps où elle était la princesse Sarah et se promenait en voiture avec Mariette, son petit visage, plein de gaieté et de vivacité, et ses jolies toilettes, avait souvent fait retourner les passants. Mais les enfants pauvres et mal habillés ne sont ni assez rares, ni assez attrayants pour qu'on se retourne et leur sourie. Personne ne regardait plus Sarah maintenant, personne ne semblait la voir, alors qu'elle se hâtait le long des trottoirs encombrés. Elle avait beaucoup grandi, et comme elle n'était vêtue que de robes les plus simples et maintenant trop petites de son trousseau, elle se sentait ridicule. Quelquefois, en se regardant dans la glace d'une devanture, elle éclatait presque de rire. D'autres fois, elle rougissait et se mordait les lèvres en se détournant, afin de ne pas pleurer. Le soir, en passant devant les maisons éclairées, elle lançait des regards furtifs à l'intérieur de ses pièces, bien chauffées, et s'amusait à s'imaginer des choses au sujet des gens qu'elle apercevait, assis auprès du feu ou autour des tables. Sur le square où se trouvait la pension de Miss Minchin, habitaient également plusieurs familles, avec lesquelles Sarah avait fait connaissance à sa manière. La famille qu'elle préférait, elle l'avait surnommée la Grande Famille. Non pas parce que les membres de cette famille étaient grands, ils étaient au contraire petits pour la plupart, et parce qu'ils étaient très nombreux. Il y avait 8 enfants dans cette grande famille, et en outre une maman grasse et rose, un papa gras et rose, et une grand-mère également grasse et rose, sans compter un grand nombre de domestiques. Les 8 enfants étaient toujours en promenade, les uns à pied, les autres en voiture d'enfants poussés par des nounous superbes. D'autres fois, ils accompagnaient leur maman, ou montaient à cheval, ou se précipitaient à la porte, au-devant de leur papa. Ils l'embrassaient et sautaient autour de lui, l'aidant à ôter son pardessus et fouillaient dans ses poches pour y trouver des surprises. Ou encore, serrés les uns contre les autres, ils regardaient par les fenêtres et dans la rue, se poussant et riant. Bref, ils étaient toujours occupés à faire quelque chose d'amusant, comme il est possible de le faire dans une grande famille heureuse. Ils étaient très sympathiques à Sarah, qui leur avait donné des noms romantiques qu'elle avait trouvés dans des livres. Quand elle ne les appelait pas la grande famille, elle les nommait les Montmorency. Le gros bébé blond, coiffé du petit bonnet de dentelle, était Ethelbert. Le bébé plus âgé, Violette. Le petit garçon, qui savait à peine se tenir debout et dont les jambes étaient si rondes, Sidney. Puis venaient Liliane, Rosalind, Guy, Véronique et Claude. Or, un soir, il arriva une drôle d'aventure, bien que ce ne fût pas, dans un sens, une aventure très drôle. Quelques-uns des petits Montmorency se rendaient évidemment à un bal d'enfants, et juste au moment où Sarah passait devant leur porte, traversaient le trottoir pour monter en voiture. Véronique et Rosalind, en robe de dentelle blanche, avec de ravissantes ceintures, venaient de monter, et Guy, âgé de 5 ans, les suivait. C'était un si joli petit bonhomme, aux joues si roses, aux yeux si bleus, avec une si adorable petite tête ronde et bouclée, que Sarah en oublia son panier et son misérable manteau et s'arrêta pour le regarder et l'admirer. Noël était proche, et on avait raconté aux petits Montmorency des histoires d'enfants très pauvres, sans papa ni maman pour remplir leurs souliers et les conduire à des fêtes. De pauvres enfants qui avaient froid, qui étaient mal vêtus et qui mouraient de faim. Dans ces histoires, des personnes secourables, parfois des petits garçons et des petites filles, remarquaient ces enfants pauvres et leur donnaient de l'argent ou de riches cadeaux, ou encore les amenaient chez eux pour leur offrir de somptueux repas. Précisément ce jour-là, Guy avait été ému aux larmes par un de ses récits, et il brûlait du désir de rencontrer quelque enfant pauvre. Il voulait, en lui donnant une certaine pièce de 10 sous qu'il possédait, l'enrichir pour toute sa vie. Car il était persuadé que 10 sous tout entiers, ce serait la richesse pour toujours. En suivant le bout de tapis rouge qui avait été étendu sur le trottoir, entre la maison et la voiture, il avait cette fameuse pièce de 10 sous dans la poche de sa culotte de marin. Au moment où Rosalinde montait en voiture et sautait sur les coussins pour en sentir les ressorts bondir sous elle, il aperçut Sarah, debout, sur le trottoir mouillé, avec sa robe minable et son vieux panier au bras. Elle le regardait avec une telle expression qu'il pensa qu'elle n'avait peut-être pas mangé depuis longtemps. Il ne se doutait pas que ce dont elle avait faim, c'était seulement de l'existence chaude et gaie qu'on menait chez lui et dont ses petites joues roses étaient la preuve, et aussi qu'elle avait envie de le saisir dans ses bras pour l'embrasser. Tout ce qu'il savait, lui, c'est qu'elle avait de grands yeux tirés, dans une figure amaigrie, des jambes trop minces, et qu'elle portait des vêtements misérables. Il mit donc sa main dans sa poche, en sortit la pièce qu'il lui tendit avec bienveillance. « Tenez, pauvre petite fille, » dit-il, « voici 10 sous, je vous les donne. » Sarah sursauta, et comprit tout d'un coup qu'elle ressemblait exactement aux enfants pauvres qu'elle avait vus dans ses jours de prospérité, attendre sur le trottoir pour la voir descendre de sa voiture. Elle leur avait souvent donné des sous, elle aussi. Rougissant puis pâlissant, pendant un instant, elle ne sut que dire et que faire. « Oh non, » dit-elle enfin, « non merci, je ne puis accepter. » Sa façon de parler était si différente de celle d'une enfant des rues et ses manières empreintes d'une telle distinction que Véronique, dont le vrai nom était Jeannette, et Rosalinde, qui s'appelait en réalité Nova, se penchèrent pour écouter. Mais Guy ne voulait pas être contrecarré dans son acte de générosité, et il lui mit presque de force la pièce dans la main. « Mais si, il faut l'accepter, pauvre petite, » insista-t-il avec énergie. « Vous pourrez vous acheter quelque chose à manger. Vous voyez que cela vaut 10 gros sous. » Et tout cela était dit avec tant de gentillesse et de sincérité que Sarah sentit qu'elle lui causerait une grosse déception si elle refusait, et qu'il était de son devoir d'accepter. Agir autrement eût été cruel. Elle maîtrisa donc sa fierté, mais le rouge lui monta au front. « Merci, dit-elle, vous êtes un amour de petit garçon. » Et tandis qu'il grimpait dans la voiture, elle s'éloigna, s'efforçant de sourire, mais un peu oppressée et les yeux embués de larmes. Elle se doutait bien qu'elle avait l'air d'une pauvre fille, mais pas au point qu'on la prît pour une mendiante. Dans la voiture de la grande famille, les enfants étaient en proie à une grande agitation. « Oh, Donald !» C'est ainsi que s'appelait Guy, s'écria Jeannette. « Pourquoi as-tu donné tes sous à cette petite fille? Je suis sûr que ce n'est pas une mendiante. » « Elle ne s'exprimait pas comme une mendiante, » ajouta Nova, « et son visage n'était pas non plus celui d'une mendiante. »« D'ailleurs, elle ne demandait pas l'aumône, » ajouta Jeannette. « J'ai eu si peur qu'elle ne se froissât. » »« Elle n'était nullement froissée, » répondit Donald, légèrement ébranlé, mais d'une voix encore ferme. « Elle souriait, et elle a dit que j'étais un amour de petit garçon. Et c'est bien vrai que je l'ai été pour elle, car c'était mon unique pièce de 10 sous. » Nova et Jeannette se regardèrent. « Une mendiante, » affirma Jeannette, « aurait dit. « Merci, mon petit monsieur. » Et peut-être aurait-elle esquissé une petite révérence. Sarah ne s'en douta pas. Mais à partir de ce moment, la grande famille s'intéressa à elle autant qu'elle s'intéressait à la grande famille. Des visages se montraient aux fenêtres dès qu'elle passait, et on discutait bien souvent d'elle autour du feu. « C'est une sorte de servante au pensionnat de Miss Minchin, » dit Jeannette. « Je crois qu'elle est orpheline, mais ce n'est pas une pauvresse, quoique ses vêtements soient bien râpés. » Ils la surnommèrent la petite fille, qui n'est pas une mendiante. Ce qui était bien un peu long et faisait un drôle d'effet dans la bouche des tout-petits. Sarah réussit à percer un trou dans la petite pièce de monnaie et la suspendit par un vieux bout de ruban à son cou. Son affection pour la grande famille augmenta, ainsi que tous ceux qui lui témoignaient de l'intérêt. Becky lui était de plus en plus chère, et elle voyait toujours arriver, avec plus de plaisir, les 2 matinées par semaine où elle donnait la leçon de français aux plus jeunes. Celle-ci l'aimait, et se disputait le privilège de se tenir debout auprès d'elle, et de glisser leurs petites mains dans la sienne. Le pauvre cœur de Sarah était réchauffé à la pensée de les sentir heureuses, quand elle se rapprochait d'elle. Ses amis les moineaux devinrent si familiers avec elle qu'au moment où elle passait la tête et les épaules en dehors de la lucarne, elle entenda immédiatement un froufrou d'ailes et des gazouillements. Tout un vol s'abattait sur les ardoises pour bavarder avec elle et faisait grand cas des miettes qu'elle distribuait. Quant à son intimité avec Melchizedek, elle se resserra à ce point qu'il avait vraiment l'air de la comprendre quand elle lui parlait, et que sa confiance alla jusqu'à lui amener parfois Madame Melchizedek et même un ou deux de ses enfants. Quant à Émilie, un étrange sentiment avait grandi dans son esprit à son sujet, sentiment né dans un moment de désespérance. Elle eût aimé croire ou faire semblant de croire qu'Émilie la comprenait et éprouvait de la sympathie pour elle. Il lui déplaisait de s'avouer que son unique compagne était insensible et incompréhensive. Parfois, elle l'installait en face d'elle, la regardait fixement, lui prêtant des pensées, jusqu'à ce qu'elle en éprouvât de la peur. Ce qui arrivait surtout le soir, quand tout était si tranquille, et qu'on n'entendait dans la mansarde que de temps en temps un va-et-vient et des cris chez les Melchizedek. Une de ses inventions favorites était qu'Émilie la protégeait à la manière d'une bonne fée. Quelquefois, après l'avoir regardée pendant longtemps et s'être exalté l'imagination au plus haut point, elle lui posait des questions et avait presque l'impression qu'elle allait lui répondre. Mais elle ne répondait jamais. Pour ce qui est de répondre, se disait Sarah, en manière de consolation, moi-même très souvent je ne réponds pas quand je peux m'en empêcher. Lorsqu'on vous insulte, le mieux est de ne pas répondre un mot, de dévisager l'insulteur et de rester calme. Miss Minchin pâlit de rage quand j'en agis ainsi. Miss Amelia paraît terrifiée. Et il en est de même des élèves. Si vous savez maîtriser votre colère, les gens sentent que vous les dominez. Ils se laissent aller alors à proférer des choses stupides qu'ils regrettent ensuite d'avoir dites. Il n'y a rien de plus fort que la colère, si ce n'est l'impassibilité qui vous la fait dominer et vous en rend maître. Il faut savoir ne pas répondre à ses ennemis. En ce qui me concerne, je ne réponds presque jamais, mais Émilie est peut-être encore plus proche de mon idéal, elle qui ne répond jamais. Elle préfère peut-être ne pas répondre, même à ses amis, et renferme tout dans le fond de son cœur. Mais bien que Sarah essayât de se consoler avec ses raisonnements, ce n'était pas toujours chose facile. Quand, après une longue et dure journée, pendant laquelle on l'avait envoyée en course de ci de là, quelquefois bien loin, malgré froid, vent et pluie, qu'elle rentrait mouillée et affamée, et qu'il fallait repartir encore parce que personne ne daignait se souvenir qu'elle n'était qu'une faible enfant, que ses pauvres jambes pourraient être fatiguées et son petit corps souffrir du froid, quand elle n'avait reçu, en guise de remerciement, que des rebuffades et des regards méprisants, quand la cuisinière s'était montrée vulgaire et insolente, quand Miss Minchin avait exhalé sa mauvaise humeur et que les élèves avaient tourné en ridicule ses vêtements râpés, c'est alors qu'elle n'était pas toujours capable de réconforter son pauvre cœur fier et douloureux à l'aide de simples imaginations en face d'Émilie, assise, toute raide, et le regard fixe. Un soir qu'elle remontait à son galetas transi et affamé, le cœur bouleversé, le regard d'Émilie lui sembla plus insensible et toute sa personne plus dénuée de vie et d'expression que jamais. Sarah ne fut plus maîtresse d'elle-même. Elle n'avait personne au monde qu'Émilie. Et Émilie restait là, inerte, insensible. « Je vais mourir », se dit-elle. Et Émilie ne scia pas. « Je n'en peux plus. J'ai froid, je suis transpercée, j'ai faim. J'ai marché toute la journée sans cesser d'être grondée. Et parce que je n'ai pas su m'acquitter de la dernière commission à leur satisfaction, on a refusé de me donner à souper. Dans la rue, des hommes ont ri de moi, parce que mes vieux souliers m'ont fait tomber dans la boue. Comme ils riaient. M'entends-tu, Émilie ?» Elle regarda les yeux de verre de sa poupée et leur expression indifférente. Et soudain, une sorte de rage désespérée s'empara d'elle. De sa petite main, elle saisit Émilie et la précipita par terre avec fureur, tandis qu'elle éclatait en violents sanglots. Sarah qui ne pleurait jamais. « Tu n'es qu'une poupée, rien qu'une poupée. Poupée, poupée, tu ne te soucies de rien. Tu n'es que du carton et tu n'as pas de cœur. » Émilie gisait sur le plancher, les jambes repliées sur les épaules et le nez aplati. Mais elle demeurait calme et digne. Sarah se cacha la figure dans les mains. Les rats, dans le mur, menaient un sabbat, et battant, se mordant, criant et courant çà et là. Melchizedek corrigeait un de ses enfants. Les sanglots de Sarah s'apaisèrent peu à peu. Elle, si maîtresse d'elle-même d'ordinaire, s'étonna de s'être laissée aller ainsi. Relevant la tête, elle regarda Émilie, dont les yeux étaient fixés sur elle, et pour la première fois, crut y discerner un peu de sympathie. Elle ramassa la poupée, et, saisie de remords, esquissa un petit sourire contrit. « Tu ne peux pas t'empêcher d'être une poupée, » dit-elle avec un soupir résigné, « pas plus que Lavinia et Jessie ne peuvent s'empêcher d'être des sottes. Nous ne nous ressemblons pas toutes. Peut-être remplis-tu de ton mieux ton rôle de poupée. » Et elle l'embrassa, déchiffonna sa robe et la réinstalla sur sa chaise. Elle avait beaucoup désiré que la maison voisine fût habitée à cause de cette lucarne qui était si proche de la sienne. « Il serait bien agréable, » pensait-elle, « de la voir s'ouvrir un jour, laissant apparaître une figure sympathique. Je commencerai par dire « Bonjour !» et bien des choses pourraient s'en suivre. Mais naturellement, il est vraisemblable que ce seront des domestiques qui habiteront là-haut. Or, un jour, en pénétrant dans le square, après avoir fait des courses chez l'épicier, le boucher, le boulanger, elle aperçut, à sa grande joie, un camion chargé de meubles qui était arrêté devant la maison voisine. Les portes étaient grandes ouvertes, et des hommes, en bras de chemise, s'affairaient à transporter de lourds paquets et du mobilier. « Elle est louée ?» se dit Sarah. « Elle est vraiment louée ? Oh, quel bonheur !» Elle eût aimé se joindre au groupe des badauds qui stationnaient sur le trottoir pour assister au déchargement. Elle pensait que, si elle apercevait quelques meubles, elle pourrait se faire une idée des gens auxquels ils appartenaient. Le mobilier de Miss Minchin lui ressemble d'une façon criante. Je me souviens d'avoir eu cette pensée dès la première minute. J'étais pourtant bien petite. J'en ai fait confidence à papa, qui a beaucoup ri et m'a dit que c'était vrai. Je suis bien sûr que, dans la grande famille, les fauteuils et les canapés sont douillés et confortables. Et je trouve que le papier à fleurs rouges qui tapisse les murs ressemble aux habitants. C'est gai, joyeux, et cela réchauffe le cœur. Un peu plus tard, on l'envoya chercher du persil, chez la marchande de légumes, et, en sortant de la maison, ce qu'elle vit sur le trottoir fit battre son cœur. Il y avait là plusieurs meubles, entre autres une belle table en bois, de teck sculpté, des chaises, et un paravent recouvert de broderies orientales, qui lui firent éprouver un étrange sentiment de nostalgie. Elle avait vu des choses si semblables aux Indes. Miss Minchin lui avait-elle pas pris précisément un pupitre en bois de teck sculpté que son père lui avait envoyé ? « Ce sont de belles choses, » dit-elle. « Elles ont l'air d'appartenir à quelqu'un de bien. Tout a l'air somptueux. Je suppose que c'est une famille riche. » Des camions pleins de meubles se succédèrent toute la journée. Sarah eut plusieurs occasions d'assister au déchargement. Il était évident qu'elle ne s'était pas trompée en croyant que les nouveaux arrivants étaient riches. Tous les meubles étaient beaux et précieux, et un grand nombre d'entre eux venaient d'Orient. De magnifiques tapis, des tentures furent encore sortis des camions, ainsi que beaucoup de tableaux et de livres. Entre autres objets d'art, il y avait un superbe Bouddha dans une châsse splendide. Un membre de la famille a dû faire un voyage aux Indes, pensa Sarah, et y a pris le goût des choses de là-bas. Je suis bien contente. Il me semblera que j'ai là des amis, même si je ne vois jamais apparaître une tête à la lucarne. En allant chercher le lait du soir pour la cuisinière, car il n'y avait vraiment pas de besogne qu'on lui épargna, elle remarqua un petit fait qui rendit la situation plus intéressante encore. Le monsieur aux joues roses, qui était le père de la grande famille, traversa le square de l'air le plus affairé et monta en courant le perron de la maison voisine. Il y entra comme s'il était chez lui, et du pas d'un homme qui s'attend à y entrer et à en sortir bien des fois à l'avenir. Il y resta un bon moment, puis en partit, en donnant des ordres aux ouvriers, comme s'il avait tous les droits. assurément, et il devait être très lié avec les nouveaux locataires, et agissait pour eux. S'ils ont des enfants, se dit Sarah, ceux de la grande famille viendront jouer avec eux, et il peut se faire qu'ils montent jusqu'à la mansarde, ne serait-ce que pour s'amuser. Le soir, son travail achevé, Becky vint voir sa compagne de prison et lui porter des nouvelles. « C'est un monsieur indien qui va demeurer à côté, mademoiselle, » dit-elle. « Je ne sais pas s'il est noir ou non, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il est indien. Il est très riche et malade. Le père de la grande famille est son homme d'affaires. Il a eu beaucoup de chagrin et en est tombé malade. Il a des idées noires. C'est un païen. Il adore les idoles et s'incline devant la pierre et le bois. J'ai vu une idole qu'on portait dans la maison. » Il faudrait lui envoyer un petit livre de prière. » Sarah se mit à rire. « Je ne crois pas qu'il l'adore, » dit-elle. « Il y a des gens qui ont chez eux un Bouddha, à titre de curiosité. Papa en avait un, très beau, et cependant, il ne l'adorait pas. » Mais Becky était plus disposée à se figurer que le voisin était un païen, ce qui paraissait plus sensationnel que s'il avait été du type ordinaire du monsieur qui va au temple le dimanche, avec un livre de prière. Elle resta tard ce soir-là à discuter du futur voisin, de sa femme et de ses enfants, en admettant qu'ils existassent, tâchant de s'imaginer à qui ils pourraient bien tous ressembler. Sarah démêla qu'au fond Becky espérait beaucoup, qu'ils fussent tous noirs, coiffés de turbans, et surtout comme leurs parents idolâtres. « Je n'ai jamais habité à côté de païens, mademoiselle, » dit-elle, « et je voudrais bien connaître leur manière de vivre. » Mais il lui fallut attendre plusieurs semaines pour que sa curiosité fût satisfaite. Elle apprit alors que le nouveau voisin n'avait ni femme ni enfant. Il était seul dans la vie, sans famille, et à coup sûr malade et malheureux. Une voiture s'arrêta un jour devant la maison. La portière s'ouvrit, et le père de la grande famille descendit le premier, suivi d'une garde malade en uniforme. Deux serviteurs sortirent alors de la maison pour aider leur maître à descendre de voiture et le portèrent en haut des marches du perron. C'était un homme voûté et très pâle, dont le corps décharné était enveloppé de fourrure. Le père de la grande famille marchait à côté de lui, d'un air inquiet. Un docteur arriva peu après, sans doute pour lui donner des soins. Pendant la leçon de français, Lottie dit en confidence à Sarah « Il y a un nouveau locataire à côté. » Sa figure est si jaune. Croyez-vous que ce soit un Chinois? Ma géographie dit que les Chinois sont jaunes. Non, il n'est pas Chinois, répondit Sarah. Il est très malade. Continuez vos exercices, Lottie. No, sir, I have not your uncle's pencil. Et ce fut le commencement de l'histoire du monsieur indien.